Donc en fait, Marie-Odile a évoqué la fonction d'enseignant détaché. Donc au service de veille, on est 6 et dont une partie sont des enseignants détachés. Notre objectif dans ce service de veille, c'est de proposer sur notre site En fait, l'objectif de l'INRP, à un certain moment, ex-INRP, non mais de l'INRP, autant voilà le service a été créé, c'était de faire le lien entre le terrain et la recherche. Et la veille était, dans cet objectif-là, chargée de, finalement, faire un suivi de la recherche en France et à l'international et de diffuser sur son site les derniers numéros de revues de recherche ou proches de la recherche, puisque moi, je signale les cahiers pédagogiques aussi, éducation et devenir, etc. Les rapports de recherche, les thèses soutenues en France, et puis d'autres informations qu'on pouvait glaner. À partir de finalement cette base de connaissances, on a cherché à publier une synthèse des travaux de recherche à partir de thématiques diverses et variées qui vont donc de la petite enfance jusqu'à l'enseignement supérieur. Donc tous ces éléments sont en ligne. Ça permet bien souvent d'éviter de la lecture à nos abonnés, puisque les gens peuvent s'abonner à nos productions, c'est-à-dire un bulletin qui signale tous les 15 jours les dernières nouveautés qu'on a pu signaler, et puis tous les mois ce dossier thématique d'une bonne vingtaine de pages, donc qui fait le tour de la revue qui fait une revue de littérature. Donc c'est pour ça que voilà, Odile a fait appel à mes services, si on peut dire, pour vous présenter donc un dossier que j'avais fait en 2011 qui s'appelait Les effets de l'éducation familiale sur la réussite éducative, que vous pourrez trouver sur le site. Et puis j'en ai tiré 4-5 exemplaires, c'est tout. Et précédemment, donc en 2006, avec un collègue, on avait effectivement également fait un dossier sur les parents et l'école. Le premier était plus sur l'implication des parents dans l'école. Celui que j'ai fait ensuite était plus sur vraiment l'éducation familiale et comment c'était envisagé dans la littérature. Alors j'ai fait un volet international, mais c'est vrai qu'il y avait quand même déjà pas mal de choses en France. Ce que je vais essayer de faire, c'est de présenter un peu ce que j'ai pu y mettre, et vous verrez que vous pourrez faire le lien avec les discussions d'hier et d'aujourd'hui et de demain et de plus tard sur le sujet. Donc j'ai essayé de vous présenter les choses de la manière dont nous on fonctionne un petit peu quand on commence à faire une synthèse, peut-être pour donner un fil, hein, après on peut en trouver d'autres, mais voilà. Donc l'idée, c'est en général quand on fait une synthèse, on part des travaux, déjà des rapports internationaux, parce que l'OCDE, l'Union européenne, ça nous donne souvent des comparatifs un peu sur une vingtaine, trentaine de pays, voire plus. En tout cas, au niveau européen, ça nous permet déjà de voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Alors avec, bien entendu, de temps en temps, on prend les choses avec des pincettes parce qu'il faut relativiser sans doute les résultats. Et là, je vous ai mis juste ce dessin pour... c'est issu d'un rapport sur la lecture. Et donc, l'OCDE préconise de faire lire ses enfants parce que c'est bien. Et donc, le petit bocal, c'est un papa ou une maman. On ne sait pas le sexe du poisson, hein. Désolée. Donc le papa ou la maman qui dit tu peux faire tout ce que tu veux, il n'y a pas de limite, sauf que bien entendu ils sont dans un bocal. Donc pour faire le lien, j'ai un peu sorti mon diaporama de mon dossier sur l'effet de l'éducation familiale pour essayer de raccrocher sur le point de départ, me semblait-il, de la formation, à savoir les parents et l'école et l'implication des parents. Donc j'ai fait une première petite partie en reprenant ce qu'on avait pu voir avec mon collègue dans le premier dossier sur les parents et l'école, et puis l'éducation pour et l'un et l'autre essayer donc d'aller vers la réussite des élèves. Alors toujours dans ce même dossier de l'OCDE sur lisons leur une histoire, le facteur parental dans l'éducation, une première, c'est vraiment en exergue hein, du document, c'est de dire le programme PISA a de bonnes nouvelles pour les parents stressés et préoccupés par l'avenir de leur enfant, nul besoin d'avoir écrit une thèse ou de passer des heures avec son enfant pour faire la différence. Là on est rassuré, je pense, hein, tout va bien. Ils sont optimistes, je pense. Voilà. Donc, sur les parents à l'école, donc, autre petit dessin, pour ceux qui voient pas, c'est les parents qui vont voir leur fils et qui leur dit est-ce que tu pourrais nous faire un mot d'excuse parce qu'on peut pas aller à la réunion de parents d'élèves, et le fils de répondre c'est la deuxième fois ce trimestre. Voilà. Donc, ce qu'on trouve dans les travaux de recherche, et donc ce que vous avez, vous, j'imagine, bien entendu en tête, c'est que l'implication des parents, c'est vraiment un leitmotiv, c'est-à-dire que c'est important. On trouve ce discours aussi bien dans les discours institutionnels que ceux des chercheurs, hein, des travaux aussi bien en France qu'ailleurs, hein, ça, c'est universel. Et puis, des professionnels, des enseignants, qui ont peut-être un discours particulier, et des parents, avec cependant, donc, des constats, là aussi, universel, à savoir que souvent l'implication se fait à faible dose, il y a une résistance persistante de part et d'autre pour des raisons diverses et variées dont vous avez sans doute discuté, et que malgré tout la notion de famille évolue et est présente de plus en plus dans les discours et dans les travaux de recherche, avec donc des approches très différentes selon qu'on se situe dans les pays anglo-saxons ou francophones, bien entendu. Alors, pourquoi est-ce qu'ils s'impliquent ? Là aussi, je n'ai pas trop passé de temps, puisque c'est des choses qu'on voit. Soit pour la collectivité, avec vraiment une idée très, très altruiste, on va dire, soit à titre individuel, ou bien pas d'implication du tout. Ça, jusque-là, on n'apprend pas grand-chose particulièrement. Par contre, donc, il y a des chercheurs qui ont essayé de dresser des typologies de ces modes d'implication. Donc, qui sont liés au rôle et aux compétences des parents. Donc, on verra à chaque fois, quand il y a cette typologie qui est dressée, c'est voir quelles peuvent être les incidences sur la réussite scolaire des enfants. Donc, avec des études plus ou moins larges sur, ou plusieurs études, puisqu'il y a eu même au Canada une étude comparative sur tous les programmes et toutes les recherches qui avaient été faites sur l'implication des parents, l'éducation parentale, avec des comparatifs de résultats. Hein. Donc, les types d'implication tiennent, donc, on voit les parents qui, l'incidence des compétences ou bien du ressenti par rapport aux compétences, les parents, donc, l'idée de communication école-famille, ou bien des études sur le rôle du bénévolat à l'école, l'encadrement des enfants à la maison, vous avez vu ça hier, je crois, sur les devoirs ou autres, la participation aux prises de décision, c'est effectivement ce qui est sans doute le plus visible pour les parents lambda, et puis la collaboration avec la communauté, c'était le côté altruiste que je citais tout à l'heure. Autre typologie, c'est-à-dire autres éléments qui permettent, qui sont des points d'entrée pour les recherches. C'est-à-dire savoir quel est, le sentiment d'auto-efficacité, d'aide sur le plan du travail. Hein. Donc, on a vu sur les enquêtes, par exemple, de la FEVE qui ont été faites, qu'effectivement, on se retrouve avec des parents qui disent, moi, je peux pas l'aider, ou des enfants qui disent, moi, mon père, ma mère, ou chez moi, on peut pas m'aider à faire les devoirs, parce qu'il y a aussi cette difficulté. Et puis, il y a aussi donc le rapport à l'école, c'est-à-dire la perception que peuvent avoir les parents d'une invitation à y aller. Est-ce que ça va être une contrainte? Est-ce que c'est une réunion? Qu'est-ce que je vais y apprendre? Etc. Ou est-ce que ça va être, comme la maman hier dans la vidéo, je vais me retrouver avec 15 personnes autour d'une table et je vais avoir l'impression qu'on va faire mon procès. Ce sont des éléments qui ont une incidence sur, d'une part, les relations et l'implication, effectivement, mais ultérieurement sur la réussite, en tout cas le bien-être émotionnel, par exemple, de l'enfant. Et puis, donc, des études qui, bien entendu, s'attachent aux conditions de vie, à la perception des compétences, c'est-à-dire vraiment le vécu des familles, et puis aussi le temps et l'énergie nécessaires pour que ces parents puissent s'impliquer à l'école et autour de l'école. Autre manière de voir les choses aussi, c'est donc tous les facteurs qui influencent sur le type de participation parentale, c'est-à-dire des facteurs d'ordre organisationnel sur la structure de la famille, la conciliation travail-famille-école, la garde des enfants, etc. Tous ces éléments-là peuvent être pris donc dans les recherches. Relationnel, on a vu tout à l'heure, hein, sur l'accueil à l'école, l'attitude des enseignants, tout ça, ce sont des facteurs qui influent d'une manière ou d'une autre sur l'implication et ensuite la participation des parents aux affaires scolaires, et puis d'ordre psychologique et individuel, hein, je le disais tout à l'heure, sur les conditions de vie et aussi sur les représentations de l'école. Alors, à noter que l'OCDE avait fait en 2006 un rapport sur les attentes du public envers l'école, et où on retrouve effectivement tous ces éléments d'attente des parents par rapport à l'école. Je vais aller assez rapidement à la suite. Donc sur l'engagement ou autre, par exemple aux États-Unis, il y a eu un document donc qui a été fait par le département de l'éducation et des compétences, donc qui dépend du ministère. Alors c'est en 2003, mais ça me semblait assez intéressant de voir un petit peu leur manière de voir, c'est-à-dire que a priori, selon les études faites, donc j'ai mis en débat hein, parce que c'est discutable, l'engagement des parents à la maison est plus efficace que leur engagement dans l'école. Peut-être que ça peut rassurer certains points, et que les variations de résultats en fonction de l'engagement des parents sont plus importantes que les variations dues aux caractéristiques de l'établissement scolaire. Vous voyez pourquoi j'ai mis en débat, parce que ça reste à discuter, mais en tout cas, selon cette étude, c'était des résultats sur un panel assez important d'écoles. Voilà l'impact de toute cette implication donc, dont on a vu les facteurs, etc., qui permettent d'étudier sur ça. Donc c'est toujours hein, les travaux de recherche qui donnent ces éléments-là sur les notions de bien-être, de compétences sociales de l'enfant, notamment au niveau du préscolaire. Ça donne des résultats sur le fait que bien entendu les choix des filières, dès lors que les parents s'impliquent, ils ont plus d'éléments pour choisir des filières qui peuvent être plus stimulantes. Sur le redoublement, il y a un moindre redoublement. Sur l'amélioration du comportement des élèves, sur leur intégration sociale, scolaire, et les attitudes sociales. Donc ça, c'était le lien que j'avais essayé de faire avec les parents et l'école. Et là, je vais essayer de reprendre simplement quelques résultats qui pourraient ou non vous apporter des éléments sur ce que j'avais donc repris dans mon dossier et que j'ai essayé un petit peu d'actualiser sur donc l'idée de l'impact, les effets de l'éducation familiale sur la réussite scolaire. Alors, qu'est-ce que nous disent les recherches ? Qu'il y a un consensus sur le fait que les parents sont acteurs en matière de persévérance et de réussite scolaire. Alors, on a pas mal travaillé aussi bien au CAS qu'à la veille sur ce qu'on appelle donc le décrochage. Et moi, j'avais travaillé sur les mesures de prévention de ce décrochage au plus tôt, en m'appuyant sur des travaux québécois et disant que si on est alerté dès la maternelle, le préscolaire, et si on fait attention aux 2-3 premières années, ça peut être des éléments, effectivement, de prévention. Là aussi, c'est une manière de voir l'échec scolaire en l'appelant décrochage, mais c'est un décrochage cognitif qui peut apparaître effectivement assez tôt. Et donc les parents ont effectivement un rôle ici, en tout cas au Canada, il y a un partenariat très fort entre les collectivités, voire les entreprises, les parents et les enseignants pour la persévérance scolaire. Autre domaine dans lequel les parents sont acteurs, donc on l'a vu tout à l'heure, le bien-être, la suidité, la motivation, les aspirations, et puis avec un effet retour, c'est-à-dire que si l'enfant va bien, forcément il y a un retour positif au niveau des enseignants et des parents. En gros, les recherches nous disent que l'équation gagnante, c'est l'engagement parental, le style parental, et pour aboutir à une réussite scolaire, disons améliorée, ou un moindre échec, je ne sais pas trop. Donc en fait, il y a les différentes études, je vais peut-être raccourcir un peu mon propos. Les études, moi ce que j'avais vu, c'est qu'en fait, il y a d'une part les styles parentaux qui ont une influence, donc il y a pas mal d'études qui ont étudié savoir si un style autoritaire ou permissif ou intermédiaire entre les deux pouvait être plus favorable à la réussite scolaire que d'autres. Bien entendu, il faut un soutien affectif. On a vu que de plus en plus dans les recherches, l'important, c'est le bien-être. Donc les recherches, bien entendu, vont aussi dans ce sens-là. Et puis, un encadrement et un encouragement à l'autonomie, c'est-à-dire savoir encadrer, mais aussi lui laisser de l'autonomie. Alors, on s'aperçoit que au fil des années, on a... Alors, je vais peut-être passer un tout petit peu... On a des ajustements, c'est-à-dire que selon les périodes, on va avoir des parents qui sont beaucoup plus attentionnés et qui vont suivre et qui vont être peut-être plus rigides quelque part dans leur manière d'appréhender la scolarité et les relations avec leurs enfants. Et puis ça se dilue un petit peu dans le temps. Les recherches disent par exemple que les parents ont tendance à laisser beaucoup plus d'autonomie dès le début de l'adolescence et que c'est pas forcément une bonne chose parce qu'effectivement c'est à ce moment-là que se pose les problèmes, soit au niveau, au moment du passage primaire-collège, soit ultérieurement. Et donc là, nous, on fait le lien avec les travaux sur le décrochage ou autre. Et c'est pas forcément lié, mais en tout cas, voilà, il y a une certaine vigilance, puisque ce serait important qu'il y ait un engagement entre 12 et 15 ans de la part des parents, alors que souvent ils se disent bah, c'est à ce moment-là qu'il faut que je laisse un peu la bride, parce qu'il est assez grand, parce qu'il sait s'organiser, ou bien entendu, autre problème, parce que j'ai de plus en plus de mal à l'aider. Il y a aussi ça qui peut apparaître. Donc alors sur les études qu'on a pu voir, et ça aussi ça reprend je suppose les résultats que vous avez eus, hein, il y a beaucoup de travaux qui bien entendu reprennent la scolarité antérieure des parents, de la mère, du père, les pratiques culturelles, en sachant que si on a des livres à la maison, ça aide, si, selon les jeux qu'on peut avoir, selon les activités qu'on peut avoir, aller au musée, au cinéma, au foot. Donc moi j'avais retenu qu'il valait mieux aller au musée que d'aller voir un match de foot, et qu'il valait mieux écouter de la musique que de faire du tricot. Mais je tricote. Voilà. Et puis donc des environnements qui peuvent favoriser le développement cognitif. Alors ce qui est important, les recherches, il y a beaucoup de recherches, mais ça vous en avez sans doute parlé, sur les problèmes d'entrée dans l'écrit et dans la lecture, à savoir que l'acquisition du vocabulaire est très importante. Donc là on rejoint le rapport de l'OCDE qui disait il faut leur lire une histoire, il faut aussi beaucoup leur parler, et donc il y a aussi des travaux de recherche qui montrent que il y a des programmes pour aider les parents, c'est-à-dire que des parents qui n'ont pas de livres, on leur apporte des livres, on leur explique comment s'en dépatouiller, c'est-à-dire comment lire avec l'enfant, etc. Donc bien entendu, beaucoup aux États-Unis, il y a une foultitude de programmes qui existent États-Unis et Canada. Et donc l'étude, il y a une grosse étude sur la littératie familiale. J'ai découvert le mot de littératie familiale. Donc des programmes qui aident justement les parents. Donc il y a une étude qui a été faite au Canada et qui a comparé 84, je crois, programmes différents pour aider les parents justement dans l'acquisition du vocabulaire de leurs enfants. La numératie qui est facilitée par les jeux de société. Enfin, il y a tout un tas de recherches sur le sujet, sur donc les compétences en lecture et en mathématiques. Voilà, sur la littératie familiale, avec donc des tas d'études qui comparent le statut socio-économique, donc la profession du père, la profession de la mère, le diplôme de la mère, sachant qu'il vaut mieux avoir une mère diplômée et un père avec un métier dans les CSP+, comme on dit, voilà, pour que ça marche, que c'est la mère qui aide plutôt aux devoirs, etc. Il y avait tout un des éléments, mais ça vous avez vu sur les devoirs, je vais peut-être passer sur ces éléments-là, donc sur la construction. Alors, de la même manière sur les jeux, je crois que vous en avez un peu parlé, parce que j'ai trouvé des recherches qui expliquent comment faire pour aider les parents, c'est-à-dire que on peut faire des jeux et des exercices mathématiques basés sur ce qui peut se faire à la maison. Donc, voilà, votre quotidien, comment calculer, peut-être faire des courses, etc. Enfin, donc, essayer de caler au plus sur des choses connues. Et puis des vidéos qui sont faites en classe, qui sont diffusées aux parents pour leur montrer comment leur élève travaille, comment les élèves travaillent en classe, pas forcément leur enfant, mais comment ça se passe en classe. Et inversement, des jeux qui partent de ce qui se passe à la maison avec les enfants qui prennent des photos, etc., et qui viennent en parler et construire des jeux avec des cartes, avec des fiches, et qui peuvent donc retravailler là-dessus, vraiment pour faire le lien entre la famille et le... Alors, les exercices, enfin, les recherches que j'ai trouvées, c'était beaucoup sur les maths, mais bon, aussi bien en Finlande qu'ailleurs, je ne sais pas, j'ai beaucoup trouvé de choses sur les maths. Voilà, je vais peut-être simplement arrêter un peu, parce qu'après, j'avais des choses sur les attentes des parents, qui étaient plus sur une analyse... toujours pareil, du rapport, etc. Donc ça, c'est des éléments que vous avez peut-être aussi. Voilà. Je pense qu'après, c'est à vous de travailler. Voilà, j'ai été très très vite, mais c'était juste pour vous, enfin juste pour dire que voilà, nous on essaye de faire des synthèses, on a des éléments. Si vraiment vous avez besoin de support, sachez que vous pouvez soit venir sur notre site, soit regarder nos notes de synthèse, soit on a pour réaliser notre synthèse, on travaille avec des, on a donc, on lit pas mal de documents et ces documents, on les met dans une bibliographie qui est accessible aussi sur notre, à partir de notre site. Donc, pour ceux qui ont envie de lire à notre place, ou après nous, comme vous voulez, on a une bibliographie donc avec des mots-clés, et donc on fait une recherche un peu comme dans un catalogue de bibliothèque. Et ce qu'on fait, c'est qu'on met un lien dès lors que le document est accessible en ligne, et donc ça vous permet de, voilà, de raccourcir un petit peu les recherches, peut-être, à ce niveau-là. Voilà. Donc, sur les parents et l'école, pour l'instant, c'est pas prévu. Je suis dans la réussite éducative, l'enseignement de la morale... s'il y a la petite enfance bientôt, voilà. Et puis après, il va y avoir l'évaluation. Voilà. Donc, si vous avez des questions.